Dans ce podcast, on va voir ensemble pourquoi les riches sont systématiquement endettés, pourquoi c'est une croyance commune de savoir que les riches ont beaucoup de dettes, ont beaucoup d'emprunts. On l'entend souvent en parlant de milliardaires. Récemment, j'ai vu une vidéo sur Patrick Drahi, qui est l'un des plus grands milliardaires français, multimilliardaire bien sûr, qui est un des hommes les plus riches de France, et qui est en situation de... Alors déjà pas de surendettement, c'est pas le cas, mais en tout cas qui a un endettement qui est énormissime par rapport à sa fortune. On parle de plusieurs milliards d'euros de dettes. Et c'est une personne qui d'ailleurs a dit dans une interview: je dors mieux depuis que j'ai X milliards d'euros de dettes que quand avant j'avais 10 000 francs sur mon compte. C'est assez drôle. Et on va voir dans ce podcast pourquoi, et pourquoi la dette est absolument indispensable, et pourquoi, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que pensent la plupart des Français, la plupart des gens, même dans le monde, la dette n'est pas une mauvaise chose, en tout cas si elle est bien utilisée, et comment et pourquoi les riches l'utilisent tout le temps, systématiquement, et comment ça les rend toujours plus riches. Puis bien sûr, on finira comme d'habitude par des éléments applicables que tu peux toi aussi mettre en place et comment tu peux utiliser toi aussi la dette dans ton quotidien de la bonne manière. On reviendra là-dessus et sans prendre de risques, bien évidemment inutiles. Hein. Le but, c'est pas de se surendetter, de prendre des prêts qui sont complètement démesurés. Bien au contraire, on va parler de ça de manière très mesurée et raisonnable. Alors déjà, il faut revenir fondamentalement à pourquoi, enfin qu'est-ce qu'un prêt, qu'est-ce que la monnaie. Parce que, alors c'est la parenthèse un peu économique, un peu chiante de ce podcast, j'ai envie de dire, mais elle est importante. Elle est importante et tu verras le monde, je pense, différemment si tu n'avais pas conscience de ça avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment fonctionne l'argent. L'argent, en fait, quand il est déposé dans une banque, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, cette monnaie-là n'est pas immobile. C'est pas de l'argent qui est dans un coffre-fort ou un coffre numérique, on va dire, et qui ne bouge pas. Au contraire, l'argent est réinvesti et redéployé. Et il n'est pas redéployé à hauteur de 1 pour 1, dans le sens où si tu déposes 1000 euros sur ton compte en banque, la banque ne va pas prêter tes 1000 euros. La banque a le droit de prêter un multiple de tes 1000 euros. C'est là où tu commences à voir venir l'histoire. Lorsque, par exemple, une banque a 1000 euros sur ses comptes en banque, elle a le droit de prêter 8000 euros, par exemple. Beaucoup plus que ce qu'elle a. Donc là, tu es en train de me dire, mais comment c'est possible? Comment une banque peut prêter plus d'argent qu'elle n'a dans ses coffres? Ça n'a aucun sens. Bah si, c'est la loi, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est d'ailleurs comme ça que naît l'inflation. C'est ce qu'on appelle la création monétaire. Quand on dit qu'on imprime des billets, on n'imprime pas vraiment des billets, on imprime des chiffres sur des comptes. Donc quand tu vas faire un crédit, moi dans mon cas, je vais emprunter 200 000 euros à la banque pour acheter un appartement, j'achète bien un appartement, hein, un vrai appartement, ok, très bien. Par contre, l'argent qu'on m'a donné pour l'acheter est fausse. L'argent a été créé de toutes pièces. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que la banque a écrit sur un papier, et ben on a prêté 200 000 euros à Monsieur Perrin pour acheter son appartement, très bien, et voilà, on vous donne les 200 000 euros, mais l'argent n'était pas sur les comptes de la banque. L'argent a été créé. Et donc, la banque va toucher des intérêts, donc un taux d'intérêt, sur de l'argent qui a été créé de toutes pièces. Et c'est bien évidemment totalement légal, et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je te passe la suite, mais quand l'argent est remboursé, il est entre guillemets détruit. Ça prend un certain temps parce que le remboursement, il ne se fait pas en 2 jours, il se fait en 20 ans, 25 ans. Donc voilà un peu la logique économique. Déjà, si tu comprends ça, tu te dis, oula, ça veut dire que la masse monétaire, elle bouge tout le temps, elle augmente continuellement, puisqu'il y a des prêts qui se font tous les jours, donc il y a de plus en plus d'argent en circulation, et donc, bah, comme tu le sais bien, plus il y a d'argent en circulation, bah, moins ça a de la valeur, c'est normal. S'il y avait de l'or à tous les coins de rue, bah, l'or ne vaudrait absolument rien. L'or, ça vaut cher parce que c'est rare, pas parce que c'est beau. Il y a plein de choses qui sont belles, mais qui valent rien. Tu vois, un arbre, c'est très beau, malheureusement, ça vaut rien, parce qu'un arbre, on peut le faire pousser n'importe où, et il y en a absolument partout. Ok, donc ce qui compte, et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la monnaie est à tendance inflationniste, c'est-à-dire que sa valeur décroît avec le temps. Ça n'existe quasiment jamais que la monnaie prenne de la valeur. La monnaie ne fait qu'en perdre. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu laisses ton argent sur ton compte en banque sans rien faire, eh ben, tu perds ton argent parce que tu peux acheter moins de choses au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, avec la même somme d'argent. 1000 euros il y a 15 ans, ben, ça valait beaucoup plus que 1000 euros aujourd'hui. Avec 1000 euros il y a 15 ans, on pouvait acheter, je sais pas, par exemple, n'importe quoi, un scooter. Aujourd'hui, tu peux même pas acheter la moitié d'un scooter, par exemple, parce que la valeur de la monnaie a décru, donc elle a perdu de sa valeur. Et c'est pour ça, au final, que la dette est si importante. Et c'est là où je veux en venir. En fait, tu as deux positions à avoir. La première position, c'est la position du consommateur moyen, du français moyen, malheureusement. C'est le cas de la plupart d'entre nous. En tout cas, moi, de base, bah, j'étais comme ça. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Mais on va voir, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste une question de connaissance. Et malheureusement, tout ce que je dis dans ce podcast, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Et c'est d'ailleurs bien dommage. Et donc, c'est pour ça que la majorité des Français se font, entre guillemets, avoir par rapport à ça. Et donc, la majorité, quand je dis la majorité, c'est peut-être 90-95% des Français font partie de la population qui est victime de l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'elle a de l'argent sur ses comptes en banque, peu ou beaucoup, peu importe, mais la valeur de cet argent décroît. Donc, tout coûte plus cher tout le temps, puisqu'on entend tout le temps l'inflation, les prix augmentent, etc. Ok. De l'autre côté, de l'échiquier, tu as les personnes qui empruntent. C'est l'opposé. Les personnes qui empruntent, au final, ces personnes-là bénéficient de l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'elles vont récupérer de l'argent qui n'existe pas sur leur compte en banque, acheter des actifs avec qui rapportent de l'argent et donc, entre guillemets, profiter de l'inflation. Parce que l'inflation, elle est créée par ces emprunts-là. Donc, soit d'un côté, tu es victime de l'inflation, c'est-à-dire que tu es épargnant, tu as de l'argent sur tes comptes et tu n'empruntes pas, ton argent décroît. De l'autre côté, tu empruntes et donc tu prends de l'argent à la banque que tu vas utiliser pour acheter des actifs. J'insiste là-dessus, des actifs, ça veut dire des biens immobiliers, ça veut dire des entreprises, ça veut dire, je sais pas, des machines pour ton entreprise, ça veut dire payer tes salariés, peu importe. Tu empruntes pour quelque chose qui est productif, qui va créer de la valeur. Je ne parle pas d'emprunter pour acheter un téléphone ou une voiture. On n'est pas là-dessus du tout. Okay ? Si tu empruntes de l'argent à la banque et que tu crées cet argent pour l'investir dans un actif et qu'en plus, l'actif que tu as acheté est suffisamment rentable pour te payer ton crédit, bah félicitations, tu viens de créer de l'argent en partant de zéro, tout comme la banque. Bon, évidemment, la banque est toujours grand gagnant, je pense que tu l'as compris, mais c'est pas parce que la banque gagne que tu ne peux pas gagner toi aussi. La banque, de toute façon, elle gagne toujours, elle prête de l'argent qui n'existe pas, donc forcément, tu ne pourras jamais la rivaliser. Par contre, tu peux utiliser cet argent qui n'existe pas, l'emprunter en l'échange d'un taux d'intérêt qui est finalement très faible et acheter un actif qui va payer ton crédit à la banque. Et c'est exactement la logique de l'immobilier. Quand tu empruntes 200 000 euros à la banque, je vais te prendre un exemple d'un de mes projets où j'ai emprunté 180 000 euros il y a quelques années déjà, qui me coûte aujourd'hui 800 euros par mois, donc c'est 800 euros par mois, c'est le remboursement de mon prêt, et bien cet immeuble-là, il me rapporte 2300 euros par mois. Donc j'ai 2300 euros de loyer et je rembourse 800 euros à la banque. Et j'ai emprunté la totalité du projet. Bah, ce qui fait que mécaniquement, eh bien, mon projet s'autofinance et j'ai acheté un bien qui me rapporte du bénéfice à partir de zéro. J'ai créé littéralement de l'argent et donc j'ai bénéficié de la fameuse planche à billets pour m'acheter un immeuble qui s'autofinance, qui se paye tout seul. Le but de ce podcast, c'est de te faire comprendre que il y a vraiment deux positions à avoir. La position de la personne qui subit et la position de la personne qui utilise le système. Encore une fois, on peut trouver que le système est bon, que le système n'est pas bon. Je ne suis pas là pour juger. Je ne trouve pas forcément ça très bien d'ailleurs, même si je l'utilise évidemment. Mais malheureusement, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne suis pas un marginal. Le système est comme ça. C'est pas forcément la meilleure version, quoique au final, quand on y réfléchit, ça a quand même de très bons impacts, et au final même sur tout le monde, hein, parce que ça encourage l'entrepreneuriat, ça encourage la création de valeur, et donc cet argent ruisselle dans l'économie, ça embauche des gens, ça fait payer des salariés, ça fait stimuler la consommation, ça fait payer des taxes, forcément. Ces taxes-là permettent d'aider les gens dans le besoin, de payer la santé, les soins de certaines personnes. Bref, on va pas rentrer dans le débat ici, mais en tout cas, peu importe ce qu'on en pense, au final, le système est comme ça. Et d'un côté, tu as les personnes qui vont avoir peur d'emprunter. Alors, je ne sais pas si c'est une idée qu'on leur a mis en tête pour les empêcher d'en bénéficier. J'en sais rien, je ne rentrerai pas dans ce débat non plus. Mais en tout cas, la plupart des gens ont peur de s'endetter. Alors qu'en réalité, l'endettement, s'il est bien fait pour acheter un actif, si on le fait intelligemment, bah, c'est une arme juste incroyable. Et toutes les personnes qui n'en profitent pas laissent énormément d'argent sur la table. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'endetter n'importe comment, d'acheter des biens qui sont beaucoup trop chers ou de se mettre dans une situation délicate. Il s'agit d'acheter des biens, d'acheter des choses qui restent dans nos moyens, qui permettent d'utiliser l'effet de levier, hein. L'effet de levier, c'est le fait de faire un prêt, et de bénéficier de cette création monétaire. C'est tout. Après, tu le fais dans la mesure de tes moyens. Moi, j'ai commencé par un petit immeuble à moins de 200 000 euros que j'ai emprunté, en tout cas que j'ai acheté avec un emprunt. Le deuxième, pareil, j'ai toujours acheté mes biens avec emprunt. Et même aujourd'hui où je peux acheter des biens à 100 000, 200 000, 300 000 euros cash, j'en ai la possibilité financière, je continue d'emprunter de l'argent tous les ans pour acheter des appartements. Pourquoi ? Parce que j'utilise l'effet de levier et je préférais toujours investir l'argent de ma banque, pour acheter un bien qui m'appartient à moi plutôt que d'utiliser mon argent. Et là, tu peux dire, ouais, mais c'est risqué d'emprunter quand même, il faut rembourser, etc. Alors, effectivement, il y a plusieurs peurs par rapport à ça. La première peur, c'est la garantie. Ce qui est très bien, c'est que quand tu achètes de l'immobilier, tu achètes un actif. Et ce que tu fais, moi je le fais d'ailleurs pas plus tard qu'en ce moment, je suis en train d'acheter des actifs immobiliers. Et ce que je fais, c'est que j'achète ces biens via une société qui m'appartient et je dis à mon banquier, bah écoutez, vous me prêtez la somme, on va dire par exemple 100 000 euros, vous me prêtez 100 000 euros et pour garantir ce prêt-là, je vous mets en garantie le bien que j'achète. Okay ? Donc la banque, en fait, elle ne prend aucun risque. Elle me prête 100 000 euros et en l'échange, je leur dis, bah écoutez, si je ne rembourse pas, prenez en garantie ces 100 000 euros d'immobilier et si je ne rembourse pas, bah c'est à vous. Comme ça, moi de mon côté, je ne suis pas solidaire de l'emprunt, on appelle ça être caution solidaire, en l'occurrence je ne le suis pas sur ce prêt-là à titre d'exemple, c'est le bien que j'achète qui est caution de moi en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait le bien s'auto-cautionne, parce que le bien vaut 100 000 euros et que la banque me finance 100 000 euros, en l'occurrence c'est pas exactement ça mais peu importe, la banque prend cette garantie-là, me prête l'argent et au pire des cas, c'est le bien qui sera entre guillemets saisi et pas moi. Donc au final, le risque, il est très relatif. Le seul risque, c'est, au pire des cas, je rembourse pas, la banque récupère le bien. Pas de problème. Pas de gros risques d'un autre côté. Et d'autre part, enfin en tout cas, là on parle vraiment du pire des scénarios, hein. Évidemment ça n'arrive pas, et je ne vous le souhaite absolument pas. Mais la réalité du scénario, c'est quoi? C'est que je fais mes calculs pour que, eh bien, ce que me rapporte ce bien-là puisse payer ma mensualité, ce qui fait que je n'ai pas d'argent à mettre de ma poche. Tous les mois, je rembourse cet immobilier grâce au loyer que me génère cet immobilier. C'est une sorte de cercle vertueux. D'un côté, tu as un bien que tu achètes avec un crédit, ce crédit se paye grâce au bien. Et du coup, tu as un bien qui se paye tout seul. Et donc, tu as un bien qui te revient à 0 euros. Si je prends l'exemple de mon immeuble de tout à l'heure, que j'ai acheté 180 000 euros, un petit peu moins, 177 000 au total avec les travaux, bah c'est un bien qui, au bout de 20 ans, sera payé intégralement, donc m'appartiendra, et qui m'aura coûté 0 euros, c'est-à-dire que c'est mes locataires qui auront payé le crédit, et en plus, qui m'aura apporté tous les mois plus de 1200 euros net. Donc, tous les mois, j'encaisse 1200 euros, et en plus, je paye mon crédit. Donc c'est juste de la magie, avec 0 euros d'apport, enfin, en l'occurrence j'ai dû mettre quelques milliers d'euros parce que j'ai quelques meubles à acheter de ma poche, bon avec quelques milliers d'euros de ma poche, bah, j'ai pu avoir un immeuble gratuit au bout de 20 ans, et en plus un immeuble qui m'aura rapporté un SMIC tous les mois. Et c'est quand même pas rien quoi, c'est beaucoup d'argent au final. Et sans compter la plus-value, parce que si je revends l'immeuble aujourd'hui, j'encaisse plus de 100 000 euros de plus-value, parce que j'ai acheté un bien extrêmement rentable, je l'ai bien valorisé, et donc je peux le revendre à un investisseur 100 000 euros de plus que je ne l'ai payé. Et donc tu vois la logique au final qui est juste dingue de l'effet de levier, c'est que sans avoir 200 000 euros, en l'occurrence 180 000, sans avoir cet argent, j'ai pu acheter un bien qui vaut 180 000 euros, qui se paye tout seul grâce à la banque et grâce au loyer, et qui en plus me génère une plus-value, et qui en plus me rapporte de l'argent tous les mois. Et ça, c'est la magie de l'effet de levier. Et quand tu comprends ce mécanisme, et que là, je te parle de 180 000 euros, mais imagine ça avec 1 million, avec 2 millions, avec 10 millions, c'est exactement la même chose. Donc, si tu te demandes pourquoi les riches sont toujours plus riches, bah, c'est parce qu'ils profitent de ce système-là en empruntant toujours plus, et eux profitent de l'inflation. Parce que quand tu as des actifs, devine quoi? Bah, les actifs, leur valeur, elle augmente en même temps que l'inflation. Quand tu es consommateur, c'est juste que tu achètes qui augmente, parce que tu possèdes. Quand tu ne possèdes rien, et bah malheureusement tu es tributaire de l'inflation. Quand tu es propriétaire, l'inflation va dans ton sens. Quand tu es propriétaire par exemple de 100 appartements, et bah même si les taux montent, même s'il y a de l'inflation, et bah le prix de tes appartements, le prix de tes loyers va suivre l'inflation. Et c'est là la magie en fait du système. Et c'est là où il faut de manière très urgente changer de bord du système et passer du bord des consommateurs au bord des propriétaires. C'est comme ça, à mon sens, qu'on change de vie, qu'on améliore sa condition. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas le faire. Tout le monde n'a pas forcément l'envie de le faire. Ça demande du travail, ça demande de l'implication, ça demande de penser différemment. Mais si tu es sur ce podcast, c'est que tu te formes, c'est que tu apprends des choses et c'est que tu es quelqu'un qui a une tendance à s'améliorer et à essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Et donc, forcément, tu as, je pense, tous les prérequis pour le faire. Mais clairement, ma mission, avec tout ce que je fais, avec Stratégie Immobilier, avec mon livre, avec tout ce que tu veux, ma mission, c'est de faire passer le plus de personnes du bord consommateur au bord des propriétaires, des personnes qui possèdent quelque chose. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir 100 appartements, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais déjà passer du côté propriétaire, ça me fait très plaisir. Et après, si après tu rejoins notre programme et que tu te mets à acheter des dizaines d'appartements, à faire de l'achat de vente, etc., et ben j'en serais ravi. Parce que clairement, tu passes vraiment du côté des personnes qui créent de la valeur, des personnes qui comprennent le système et savent l'utiliser pour justement réaliser de belles opérations, réaliser une belle entreprise, un beau projet et qui leur permettra de mieux vivre et de s'affranchir du système. D'où bien sûr le titre du podcast. Voilà pour ce point, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ce podcast a été suffisamment clair. Évidemment, on est rentré dans des notions économiques qui sont parfois un peu complexes. J'espère que tu as compris quand même ces notions-là. Le but, c'est d'élever un peu le débat, on va dire, avec ce type de contenu économique. Évidemment, si tu as envie de te renseigner sur les banques, je t'invite à aller voir sur Internet, sur Google, sur des sites officiels. Tu verras que la production monétaire, la création monétaire, c'est un vrai terme économique, se produit bien exactement comme j'ai décrit. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Non, mais ça, c'est... » Il y a des personnes, quand je leur explique ça, ils me disent « Mais c'est un complot, etc. » Mais je leur dis « Allez voir le site de la Banque de France, si vous voulez, c'est expliqué noir sur blanc. Tout est expliqué. C'est comme ça qu'est créé l'argent. L'argent est créé par les banques centrales d'abord, puis par les banques commerciales. Et donc d'un côté, les personnes qui consomment, encore une fois, sont victimes de ce système, pendant que ceux qui produisent, possèdent et empruntent sont les grands bénéficiaires. Et tu comprends maintenant pourquoi tous les grands milliardaires sont toujours très endettés et qu'ils se portent très bien parce qu'ils sont endettés contre des actifs qui valent toujours plus. Et donc forcément, c'est exponentiel, c'est un effet domino qui est positif absolument tout le temps quand tu fais les bons choix et bien sûr quand tu en es de manière raisonnable, intelligente. D'ailleurs, petit disclaimer à la fin de ce podcast, je ne t'incite pas à t'endetter pour n'importe quoi ou à des fins complètement déraisonnables. Bien évidemment, consulte les personnes qui sont habilitées à te conseiller là-dessus sur la partie financière et endette-toi uniquement pour acheter des actifs, des choses qui vont te rapporter de l'argent. Et je parle d'actifs tangibles, concrets qui existent depuis longtemps. N'emprunte pas pour investir en trading ou en bourse ou quoi, non. emprunte pour acheter quelque chose de concret, de l'immobilier notamment. Pour le reste, c'est pas du tout la même logique. Okay. Et d'autre part, endette-toi de manière raisonnable, intelligente. Moi, j'ai pas commencé par faire un crédit de 500 000 euros. J'ai commencé par un petit crédit de moins de 180 000 euros, enfin de moins de 200 000 euros pour le premier. Puis après, je suis resté sur des projets finalement en dessous de 200 000 euros. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, mon taux d'endettement reste très raisonnable par rapport à mon patrimoine. Voilà. Donc, soyez raisonnable, soyez intelligent, mais comprenez ces systèmes-là. Ne soyez pas des bourrins. Allez-y intelligemment, progressivement. Et vous verrez que quand vous comprenez le système, vous vous direz waouh, c'est juste incroyable et c'est dommage que pas cette personne finalement en conscience de ça. Pour finir ce podcast, si tu veux en savoir plus, tu vas voir finalement mes retours, mon enseignement de manière beaucoup plus complète, d'avoir finalement tout ce que je t'enseigne là, mais de manière applicable, que tu peux utiliser dès maintenant avec une stratégie, avec une méthode de A à Z pour réaliser tes premières opérations, tu as accès en dessous à une vidéo qui t'explique absolument toute ma stratégie et par la suite, tu pourras rejoindre ma formation où je t'enseigne tout ça de manière concrète pour que tu puisses faire comme moi, vivre ton immobilier et puis réaliser de belles opérations rentables et créer une activité qui te permet d'en vivre à 100%. Voilà, je te laisse là-dessus.